L'Ancien et le Nouveau Testament parlent des prêtres juifs qui fonctionnent suivant la loi de Moïse. Rituel codifié pour les sacrifices dans le temple, purification, moyen de subsistance des prêtres et de leurs familles, mais aussi portrait de Jésus face aux grands prêtres du temple à Jérusalem. Une réalité finalement que nous connaissons souvent mal, et parfois malheureusement de manière caricaturale. Pour aller plus loin et mieux comprendre ce qu'était le sacerdoce en Israël, nous avons interrogé un théologien protestant, spécialiste du judaïsme antique, le professeur Christian Grapp de Strasbourg.
Il y a une expérience fondatrice qui a été faite par le peuple au Sinaï. Un moment se dégage comme étant celui d'une communion plus particulière du peuple avec son Dieu. C'est le moment où, en Exode 24, Moïse monte avec les anciens sur la montagne et va sur cette montagne célébrer un repas qui se fait en présence même de Dieu. Ce repas est un événement tout à fait unique dans la Bible hébraïque et on peut avoir l'impression que le culte israélite essaie en quelque sorte de reproduire cette expérience fondatrice et de routiniser, de reproduire une expérience unique. Par exemple, l'autel des sacrifices, qui était l'autel sur lequel étaient immolées les bêtes qui étaient offertes, était faite en pierre qui devait être non taillée. Le fait que cet autel soit fait en pierre non taillée peut justement évoquer la montagne du Sinaï et dire que voilà, cet autel est une sorte de mini-Sinaï sur lequel va se reproduire quelque chose qui relève d'une expérience semblable dans la mesure où le culte culmine dans un repas et met en présence Dieu, les prêtres et le peuple à travers ce repas.
Et typiquement alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce repas? Ça ressemble à un grand banquet, un repas sacré?
Le repas lui-même était lié à ce qui était offert. Il y avait différents types de sacrifices, et parmi les sacrifices, j'ai l'habitude de distinguer pour ma part entre des sacrifices de réparation, qui avaient pour but de restaurer les conditions de possibilité de la relation avec Dieu, dès lors que des impuretés se produisaient, c'était inévitable, ou alors que des péchés purement graves étaient commis. Il y avait des sacrifices de réparation qui étaient prévus pour restaurer les conditions de possibilité d'une communion avec Dieu en décontaminant l'espace sacré des impuretés qui étaient venues s'y coller. D'autres sacrifices étaient pour leur part des sacrifices de communion et marquaient donc la relation entre Dieu et le peuple justement dans un repas. Au cours du repas, eh bien, il y avait une part qui était réservée à Dieu, une part de la bête qui était réservée aux prêtres et puis une part de la bête qui était réservée à l'offrand. Et donc tous ces participants au culte sacrificiel mangeaient ensemble, même s'ils ne mangeaient pas exactement la même chose.
Ces prêtres, ils avaient un rapport avec les juifs de la rue, les personnes quotidiennes, ou est-ce qu'ils étaient un peu mis à part?
D'abord, ils vivaient avec leurs compatriotes quasiment toute l'année, dans la mesure où ils n'étaient à Jérusalem, pour beaucoup d'entre eux, que 5 semaines dans l'année, hein, les 2 semaines où ils étaient en service au sanctuaire, et puis les 3 semaines liées aux fêtes de pèlerinage. Simplement, quand ils allaient officier au temple, ils devaient être en état de pureté, ce qui les astreignait à des règles de pureté plus importantes que celles auxquelles étaient soumises la plupart des gens du peuple.
Mais à part ça, pendant le reste de l'année, ils menaient une vie normale, ils avaient une femme, des enfants.
Ah oui, ils pouvaient bien sûr se marier, bien entendu, puisqu'en plus on était prêtres de père en fils, puisque c'étaient les membres de la tribu de Lévi qui étaient prêtres, ou lévites, mais cette tribu se reproduisait entre elles.
Et alors quand est-ce que ces prêtres juifs ont disparu? Parce qu'il n'y en a plus maintenant.
Ils ont disparu avec le temple. Leur raison d'être, c'était le culte au temple. Dès lors que la ruine du temple s'est avérée comme étant un phénomène durable après sa destruction en l'an 70 de notre ère, les prêtres ont peu à peu perdu de leur importance puis disparu.
On a parfois l'impression, en lisant l'Évangile, qu'entre les prêtres, souvent sadducéens d'un côté, et puis de l'autre côté, les pharisiens, les rabbins, les maîtres en fait, de la loi, il y avait des tensions. Est-ce que c'est vrai?
Il faut être assez prudent, c'est-à-dire qu'il est clair que la plupart des sadducéens devaient se recruter parmi les prêtres, et notamment parmi les grandes familles sacerdotales. Et là, il faudrait aussi faire la différence entre les grandes familles sacerdotales, parmi lesquelles étaient nommés les grands prêtres, des gens immensément riches, et puis les prêtres du commun qui finalement vivaient de pas grand-chose, hein, parce que leur source de revenus était quand même assez faible. Dans la mesure où les Sadducéens sont attachés au temple, attachés à l'ordre établi, il faut reconnaître que c'était des gens qui étaient extrêmement conservateurs. Ils n'avaient qu'une envie, c'est que les choses continuent telles qu'elles s'étaient toujours passées. Et ce n'était pas du tout une force de proposition ou une force novatrice, apparemment, dans la société du temps, alors qu'il y avait des mouvements de renouveau, peut-on dire, dans la société elle-même, qui avaient une approche différente de celle des prêtres. De ce point de vue, les pharisiens sont des gens très intéressants, parce qu'en fait, alors que les sadducéens estiment qu'ils sont seuls concernés par la vie du temple et qu'ils sont seuls astreints, par exemple, à des règles de pureté plus particulières, eh bien, les pharisiens qui sont issus du peuple et qui sont pour la plupart pas prêtres, mais il devait y avoir des prêtres pharisiens quand même, eh bien, les pharisiens souhaitaient s'imposer dans la vie quotidienne les mêmes règles de pureté que les prêtres qui étaient en service dans le temple. De ce point de vue, ils mettaient leur vie à part, ils sanctifiaient en quelque sorte le quotidien. Finalement, alors qu'ils se rendaient toujours au temple, ils s'efforçaient en même temps de sanctifier la sphère profane. Et il est clair que cette entreprise les a aidés, si vous voulez, à surmonter le terrible traumatisme qu'a constitué la ruine du temple, dans la mesure où ils ont, bien avant la chute du temple, amené en quelque sorte le temple dans les maisons.
Comme chrétiens, finalement, est-ce que nous n'avons pas une idée un peu fausse de ce qui se passait au temple ?
Pour ce qui était du culte israélite, l'essentiel n'était pas, contrairement à ce que nous nous représentons le plus volontiers, ce pôle de la réparation dont j'ai parlé, mais le pôle de la communion. Le but même du culte, c'était la communion. Il y a pu y avoir une déformation un petit peu de notre compréhension de ce culte de par notre lecture chrétienne des événements, dans la mesure où il y a eu une très forte insistance sur le pardon accordé par Jésus, une compréhension sacrificielle de la mort de Jésus qui venait se substituer au pôle de la réparation, alors que pour bien comprendre, me semble-t-il aussi, l'événement Jésus-Christ, il faut bien voir que le pôle de la réparation est indissociable du pôle de la communion et que de fait, la réparation n'est que le préalable à la communion. Et ce qu'a voulu instaurer le Christ, c'est assurément la communion, même si cette communion s'accompagne de l'octroi de la réparation.